France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans les années 70, plusieurs des films d'Éric Rohmer avaient déjà rencontré un grand succès critique et public. La collectionneuse, Ma nuit chez Maud, Le genou de Claire. Après l'adaptation d'une nouvelle de Kleist, La marquise d'eau, en 1976, le cinéaste se lançait dans un projet de longue date, l'adaptation d'un roman inachevé de Chrétien de Troyes, Le conte du Graal. En vertu d'un principe déjà appliqué lors de son précédent film et qu'il retrouverait 25 ans plus tard pour L'Anglaise et le Duc, il choisit, pour représenter le Moyen-Âge à l'écran, de s'en remettre aux images que l'époque romane nous a laissées. Il retraduisit les octosyllabes médiévaux dans une langue plus familière, fit construire un décor circulaire dénué de perspective et intervenir un chœur de musiciens. Fabrice Lucchini fut donc Perceval le Gallois, jeune naïf émerveillé par les armures d'un groupe de chevaliers qu'il a pris pour des anges et décide d'être à son tour adoubé par le roi Arthur. Chevauchant d'épreuve en épreuve, il s'initie par les armes, par l'amour courtois, l'amitié chevaleresque et au terme d'une longue errance en forme d'authentique chemin de croix, accède pour finir à la spiritualité. Le film fut hélas accueilli durement par la critique et boudé par le public. 3 semaines après sa sortie, Éric Rohmer en racontait la genèse au micro de Claude Jean-Philippe dans l'émission Le cinéma des cinéastes, diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 février 1979.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Éric Rohmer, je vous remercie de vous trouver parmi nous aujourd'hui pour parler de votre film Perceval. Comme je l'avais déjà dit dans les précédentes émissions, c'est à votre demande que nous avons retardé cet entretien avec vous, qui nous passionnait pourtant. Je veux dire que nous avions très très envie de parler de Perceval. Mais au fond, c'est assez dans la tradition du cinéma des cinéastes que de retarder une réflexion sur un film en compagnie de son auteur, de manière à ce que le film ait travaillé dans notre tête, puisqu'il est bien évident que les choses travaillent et que passer le flot de prose sur Perceval, eh bien là, nous nous retrouvons dans le calme de ce studio ce matin avec Caroline Champetier et Pierre Donadieu pour parler avec vous de Perceval. Peut-être, si vous le voulez, à la fin de cette émission, compte tenu de la mort de Jean Renoir, je vous demanderai de dire quelques mots sur Renoir, si vous le voulez bien, si vous le voulez bien seulement.
Oui, avec plaisir.
Bien. Perceval, Caroline, Pierre, avez-vous des questions à poser à Éric Rohmer?
Ah, je dois d'abord dire que j'aime énormément le film. Moi, je l'ai vu 3 fois et ça me paraît un film complètement essentiel. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je trouve que les problèmes de production sont complètement secondaires et l'essentiel, c'est que le film existe. On sait que le film est cher, on sait que c'est un film qui va peut-être être reçu un petit peu difficilement par le grand public, mais je trouve que ça n'importe vraiment pas. Et ce qui importait, c'est que ce texte soit porté au cinéma, que vous en avez fait ce que vous en avez fait, de la même façon que l'histoire de Perceval a été sans cesse reprise au Moyen-Âge, et qu'une fois de plus, vous avez repris ce texte pour en faire autre chose. Et vous dites beaucoup que ce qui vous importait, c'était de défendre d'abord le texte et de faire connaître ce texte. Moi, je trouve que c'est pas exactement ça. Je trouve que vous avez fait vraiment une nouvelle version de Perceval.
Oui. Enfin, je voudrais d'abord répondre à une chose que vous venez de dire. Ce film est cher. Il n'est pas tellement cher, en fin de compte. Il n'est pas plus cher que beaucoup d'autres films qui sont des films quotidiens et dans lesquels il n'y a pas de luxe de décor. Et d'autre part, c'est une entreprise qui a été très sûre. Ce n'est pas une aventure. C'est un film qui est financé particulièrement par les télévisions, la télévision française, la télévision italienne, la télévision allemande. Par conséquent, ce film n'a pas besoin des recettes des spectateurs pour amortir son devis. C'est une opération, autrement dit, c'est une opération saine. En ce qui concerne l'accueil public, pour le moment, disons que c'est difficile de se prononcer. Non, ma volonté avait été et reste toujours de faire un film plus public que Les Contes Moreau. Même si le nombre de spectateurs qui va voir ce film n'est pas plus important que celui des Contes Moreau. Mais enfin, il s'adresse à un public peut-être différent. Les Contes Moreau, tout de même, avait un public très élitiste. Oui. S'adresser, comme l'a parfois reproché, une certaine élite, disons bourgeoise, entre guillemets. C'est ça. Alors que Perceval, je pense, est beaucoup plus accessible dans des milieux plus populaires. Oui. D'ailleurs, le fait est, c'est que les critiques des journaux populaires, qui s'adressent à des gens, disons, ayant des emplois peu rémunérés ou bien n'ayant pas beaucoup d'argent de poche, oui, sont plus favorables que celles des journaux qui s'adressent aux cadres, aux professions libérales. Enfin, c'est très net. Et en particulier, c'est un film qui doit toucher également les enfants. Mais c'est pas du tout pour ça que c'est un film enfantin. Ça. Mais en fait, c'est un film qui est accessible aux enfants. Et il se trouve que les très jeunes enfants, ils sont très, très sensibles. Et comme nous en avons fait l'expérience, parce qu'avant de le sortir, le film a été projeté dans de nombreuses écoles. Et il s'est trouvé une chose curieuse, d'ailleurs, que les enfants ne trouvent pas le film trop long. Alors, comme avait dit, au bout d'une heure et demie, les enfants sont impatients, ne peuvent pas supporter. Or, le film dure plus de deux heures, et cela ne semble pas les avoir gênés. Et de même, pour répondre peut-être à votre question, le texte, la langue, les a séduits et... Il semble, d'après les questions qu'ils ont posées, oui, qu'ils avaient compris même des choses assez subtiles.
Éric Rohmer, je vous ai entendu dire dans un de vos précédents entretiens, je pense que c'était sur FR3, dans l'émission Ciné-Regard, que Perceval était un de vos projets les plus anciens. Est-ce que je peux savoir à peu près à quelle date ça remonte? D'abord, votre première lecture de Perceval.
Ma première lecture de Perceval, c'était quand j'étais professeur. Et j'étais professeur en classe de 3e, et je m'apercevais que c'était très difficile de faire aimer les romans courtois aux enfants. Je ne dis pas le Moyen-Âge, enfin les enfants ont toujours été curieux du Moyen-Âge, et en particulier la chanson de Roland, le texte de la chanson de Roland est relativement accessible, parce qu'il s'agit d'action, il s'agit de choses d'ailleurs assez horribles, mais les enfants ne sont pas gênés par l'horreur, au contraire, ils ont une certaine curiosité. En revanche, les romans courtois, c'est plus difficile. Mais il se trouve que dans ces romans courtois, il y en a un qui les faisait rire, qui les amusait beaucoup, et c'était Perceval. Et j'avais à ma disposition à ce moment-là une ébauche de traduction en vers par un professeur qui s'appelle Gustave Cohen, en fait, qui est un médiéviste très, très célèbre et qui a écrit de nombreux ouvrages, en particulier sur le théâtre du Moyen-Âge. Et cette traduction qui était très mot à mot, plus mot à mot encore que celle que j'ai faite, et où il y avait beaucoup d'archaïsme, leur plaisait énormément. Et c'est peut-être à ce moment qu'a germé en moi l'idée de faire un film sur Perceval.
Quand vous étiez professeur en classe de 3e, vous aviez déjà publié des articles de cinéma, par exemple votre article de la revue du cinéma?
Oui, c'était à peu près à ce moment-là. Oui, j'avais déjà commencé à publier précisément, déjà je m'intéressais au cinéma, et j'avais publié des articles de revue du cinéma, et même au cahier du cinéma.
Bon, alors il y a un de vos premiers articles, à ma connaissance, c'est le cinéma art de l'espace.
Oui. Oui, c'est ça.
Ce qui nous amène à Perceval, d'une certaine façon.
Oui, enfin, si vous voulez, Perceval est un peu la solution à ma théorie et à ma pratique de l'espace, si vous voulez. Oui, c'est ça.
Mais non, il faut rappeler que vous êtes intéressé à l'architecture, que vous avez fait des courts-métrages sur les métamorphoses du paysage industriel. Il faut rappeler que votre mise en scène, pour, je prends un exemple, Ma nuit chez Maud ou La collectionneuse, que votre mise en scène est toujours, tient toujours terriblement compte de la disposition des lieux et des lieux intérieurs par rapport aux extérieurs, etc. Il faut rappeler que l'espace est une préoccupation profonde chez vous.
Oui, oui, effectivement. Et je crois qu'en fin de compte, le sujet de Perceval, enfin, c'est aussi l'espace au Moyen-Âge. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'espace au Moyen-Âge ? Ben, l'espace féodal. Ben, si vous voulez, c'est pour nous, qui ne s'intéressons plus tellement à son fonctionnement, mais pour nous, c'est l'espace esthétiquement parfait. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'idéal. Qu'est-ce que c'est qu'un beau paysage ? Eh bien, pour nous, touristes, si vous voulez, le beau paysage, c'est un paysage dans lequel il y a de temps en temps des châteaux. Et qu'est-ce qui nous fait rêver ? C'est précisément d'aller de château en château, c'est le trajet de ce chevalier, si vous voulez, qui erre solitaire. Et ça, c'est ce que je pourrais appeler le mythe, non pas le mythe seulement médiéval, mais le mythe romantique, c'est-à-dire le Moyen-Âge vu à travers le romantisme, c'est ça. Et ce mythe, d'ailleurs, a été exprimé, il a été exprimé dans les romans romantique, dans les romans de Walter Scott, par exemple, et il est exprimé dans les tableaux romantiques, et il a été exprimé aussi dans les films romantiques, c'est-à-dire dans tous les films qu'on a pu faire sur le Moyen-Âge, où on voit des paysages, mais à ce moment-là, ces châteaux sont des châteaux en ruines, si vous voulez. Et le paysage s'est tout de même transformé, c'est pas exactement le paysage du Moyen-Âge. Mais je crois que les gens du Moyen-Âge n'avaient pas exactement cette même vision, si vous voulez. C'est-à-dire, cette même vision romantique. C'est-à-dire, si ça les faisait rêver, c'est d'une autre façon. Et je crois que ce paysage était davantage fonctionnel. Et ce que j'ai essayé de retrouver, moi, c'est au-delà de cette vision romantique, qui aurait été une facilité, car c'était très facile de faire Perceval en montrant de grandes forêts, en montrant des ruines, ça aurait été très beau, et les gens auraient été peut-être pris d'une façon plus directe. J'ai essayé de retrouver cette vision d'un espace qui était simplifié, c'est-à-dire d'un espace qu'on pouvait saisir presque d'un seul coup d'œil. Et c'est ça qui m'intéressait, d'avoir l'occasion de faire ça. Car c'est une chose extrêmement rare au cinéma. Et puisque vous avez cité mes anciens films, je pourrais dire que, précisément, c'est enfin, l'espèce d'échec que j'ai toujours pu rencontrer dans ma volonté de traduire l'espace, ça a été précisément l'échelle, la dimension de l'espace. Bon. Par exemple, dans Le Signe du Lion, c'est l'histoire de quelqu'un qui se promène dans Paris, et à ce moment-là, j'aurais voulu rendre encore plus l'immensité de Paris. Bon, eh ben, j'y arrive peut-être d'une certaine mesure, mais je crois que la connaissance que tout le monde a de Paris, même les gens qui ne sont pas de Paris, peut aider à cette compréhension. Mais que quelqu'un qui ne connaîtrait pas Paris, eh bien, pourrait, à ce moment-là, ne pas saisir exactement les véritables dimensions. Et à mon avis, c'est dans un petit film, le premier des Contes Moreau, La boulangère de Monceau, que j'ai réussi à l'exprimer peut-être de façon la plus nette, parce que j'avais quelque chose de privilégié. Et encore, c'est l'histoire de quelqu'un qui tourne en rond dans un quartier.
Oui, mais un quartier très précis.
Très précis. Mais tourner en rond, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce qu'on n'a pas de point de repère. Enfin, c'est la même chose lorsqu'on fait un mouvement d'appareil au cinéma et qu'on se met à tourner. Mais à ce moment, au lieu de saisir mieux l'espace, on perd l'espace. Et très souvent, le champ contre champ permet de saisir la réalité de l'espace plus que le mouvement d'appareil.
C'est le cas de Ozu, par exemple, qui donne un sentiment de l'espace, le cinéaste japonais.
Uniquement par
le champ contre champ.
Par le champ contre champ. Moi, je pense que le champ contre champ. Oui.
Ah oui, non, pardon. C'est...
Et alors, dans Perceval, non, pour parler de Perceval, comme j'ai un décor qui existe en lui-même, si vous voulez. Alors à ce moment, j'ai pu donner le sens de l'espace plus facilement et en même temps le perdre plus facilement. Parce que lorsqu'on se met à tourner, à ce moment, on est complètement perdu. Et ça m'a permis précisément de donner une impression de trajet long, oui, alors qu'en réalité, le personnage ne fait que quelques mètres.
Éric Omer, il se trouve que ça a un sens quand même, je veux dire, moral. C'est-à-dire que c'est un voyage... mais dans des régions très lointaines, dans des contrées très lointaines, dans des lieux perdus très loin, et en même temps, concrètement, sur l'écran, c'est le même lieu, c'est un lieu scénique. Alors moi, j'aimerais vous entendre parler du roman et du théâtre.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que je crois qu'il y a deux grandes préoccupations pour vous, enfin, il y a la musique, et puis il y a le roman et le théâtre, et Alors j'aimerais vous entendre parler du roman et du théâtre.
Oui, enfin c'est la question essentielle. En fin de compte, pourquoi mon adaptation n'est-elle pas une adaptation romanesque ou également, en faisant un jeu de mots, romantique, oui, c'est-à-dire en roman, oui, c'est-à-dire en profitant de tous les éléments dans Chrétien de Troyes qui déjà préfigurent le roman, c'est-à-dire le réalisme de l'espace, oui, dans la mesure où il est parfois question de plus ou moins de distance, enfin, bien qu'on ne décrive pas la forêt, tout de même, parfois, les châteaux sont décrits, on montre comment l'un apparaît derrière des rochers, etc. Bon, alors là, j'aurais pu, effectivement, tourner en décor naturel dans la lande bretonne, dans la forêt de Brocéliande, ou en Espagne, je ne sais pas où, comme on fait beaucoup de gens. Qui ont voulu faire des...
Vous faire reconstruire un château neuf comme Carnet dans Les Visiteurs du Soir.
Non, alors ça c'est exclu. De toute façon, c'était exclu. Je veux dire, le procédé de Carnet ou celui de Fritz Lang dans Nibelungen qui consistait à construire à l'échelle, c'est pas possible étant donné les moyens que nous possédons actuellement. Mais enfin, c'est pas ça. En fait, c'est pas une objection essentielle. C'est pas pour ça que j'ai fait un décor stylisé. C'est pas pour cette raison. C'est précisément parce que je voulais retrouver cette vérité du Moyen-Âge. Alors, je suis parti. Enfin, on me reproche, beaucoup de gens m'ont reproché mes arbres. Mais c'est des arbres que je suis parti. Et moi-même, j'ai le sentiment inverse. C'est que quand je vois un film du Moyen-Âge, je peux pas supporter de voir un chevalier devant un arbre réel. Bon. Alors, on me dirait, mais pourtant, à cette époque, ils étaient devant des arbres réels. D'accord. Oui, mais attention. Je ne les vois pas devant des arbres réels. Je les vois filmés, photographiés devant des arbres réels. Et c'est quelque chose qui m'est très insupportable, c'est que la photographie, avec les méthodes actuelles de photographie, cette vision photographique avec l'œil moderne, s'exerce sur des événements anciens. Oui. D'ailleurs, ça me choque même pour des époques très récentes. Par exemple, je n'aime pas les films rétro. Oui, je n'aime pas les films rétro, mais même en couleur, par exemple. Ben, oui. En 1930, j'ai vécu en 1930. Ben, bon, j'ai vu les couleurs, mais à ce moment-là, la photo en couleur n'existait pas. Et pour moi, une photo en couleur de quelque chose de 1930, c'est faux. Il faut que ce soit en noir et blanc et que ce soit avec la qualité photographique de l'époque.
Oui, on pourrait ajouter à ce que vous dites, Éric Rohmer, que quand quelqu'un nous transporte, surtout dans une période récente, avec un très grand souci de reconstitution, il se met, lui, dans le cas de faire de nous des sortes de guetteurs du moindre faux pas. Du moindre bibelot qui n'est pas si bien que en réalité on se transforme en regard. Ça m'est arrivé à la télévision en regardant des trucs qui se passaient en 1925 et c'est complètement idiot. Enfin, on se trouve dans une situation de spectateur complètement fausse. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous.
Oui. Enfin, je pensais que en fin de compte, ces arbres, il fallait les représenter comme les gens de l'époque les avaient représentés. Mais attention, je pense que le cinéma est un art réaliste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imiter la peinture. Et alors là, il y a peut-être une méprise en ce qui concerne la Marquise d'Eau et en ce qui concerne Perceval. Je n'ai voulu ni dans l'un ni dans l'autre faire de la peinture. J'ai tout simplement voulu filmer un décor qui était construit dans l'esprit architectural ou pictural de l'époque. Et c'est pourquoi on est obligé de passer par le théâtre. C'est-à-dire, on est obligé, ou du moins par une vision théâtrale, on est obligé de montrer des gens qui sont en train, au Moyen-Âge, de représenter Perceval comme on l'aurait représenté au Moyen-Âge. C'est-à-dire avec le système du théâtre du Moyen-Âge, des décors qui sont des décors fixes, des décors, non pas fixes, ils pouvaient parfois se déplacer, mais enfin des décors qui sont toujours les mêmes pour le décor du château, le décor de la forêt, etc.
Voilà. On appelait les mentions, je crois.
Oui, ça s'appelait les mentions, c'est ça. Non, enfin, j'ajoute encore que ce que j'ai voulu faire est tout à fait différent de Laurence Olivier, parce que Laurence Olivier a essayé de montrer des perspectives truquées. Alors moi, je ne pouvais pas montrer de perspectives parce que j'étais dans une époque où il n'y avait pas encore du tout, je ne dis pas de perspectives, enfin, mais de lointain. Bon, il n'y a pas d'air dans la miniature romane. Il y a les objets, les personnages, mais il n'y a pas, pour ainsi dire, de décor. Par conséquent, un arbre est planté comme ça dans le vide. Bon. Par conséquent, je ne pouvais pas avoir ces trucages. Parce que Laurence Olivier a essayé donc d'imiter une certaine manière picturale. Mais personnellement, ce que j'ai essayé, c'est d'imiter une certaine manière plutôt architecturale. C'est-à-dire, mes arbres sont moins inspirés, d'ailleurs, par les miniatures qu'ils ne sont inspirés par les arbres que l'on voit sculptés, d'ailleurs, et souvent très saillants dans les chapiteaux, par exemple. Alors, une fois que j'ai eu ce décor, j'ai filmé comme j'aurais filmé un documentaire. Mes personnages se sont habitués à ce décor, se sont sentis à l'aise dans le décor, et quand j'ai mes personnages, je prédis aussi les chevaux. Enfin, les chevaux sont promenés là-dedans, dans la nature. Et j'ai été un cinéaste, un documentariste.
Oui, alors, vous dites parfois que Perceval, c'est Buster Keaton, enfin, ou que Buster Keaton a déjà un côté chevalier. Un côté...
Oui, c'est plutôt l'inverse, c'est ça, c'est que... Enfin, ou Perceval annonce Buster Keaton, ou si vous voulez, c'est ça, il y a ce côté-là chez Buster Keaton, effectivement. Alors, surtout dans Steamboat Junior, c'est très net.
Oui, alors, bon, il y a quelque chose qui me frappe, moi, qui m'a toujours frappé chez Buster Keaton, c'est d'une part, son extraordinaire sens de la course, quoi, c'est toujours en, il est toujours en poursuite très, très rapide, mais en même temps, il s'arrange pour être filmé de telle sorte que lui-même ne bouge pas par rapport aux deux bords du cadre. C'est-à-dire qu'on a une impression devant les films de Keaton à la fois de très grande mobilité, de course éperdue, et en même temps de mobilité, puisque par rapport au bord du cadre, il est immobile.
Oui.
Alors, je retrouve un peu ça chez Perceval, c'était la question que je vous posais tout à l'heure, ce très long voyage immobile.
Oui, enfin, ce que vous dites est très intéressant, enfin, je n'y ai pas songé, mais il est certain que pour moi, Buster Keaton est un des cinéastes qui a le plus ce fameux sens de l'espace, et le sens de la continuité de l'espace, c'est certain. C'est certain. Je ne vois d'égal que mon eau. D'ailleurs, il y aurait parfois des certains points communs entre eux, et aussi avec Fritz Lang. Et le sens, évidemment, de la trajectoire horizontale ou verticale, puisqu'il y a aussi des chutes, est extrêmement important, et c'est le leitmotiv de tous les films de Buster Keaton. Et Perceval également, effectivement, c'est un trajet. Alors, ce qu'il n'y a pas dans Perceval, c'est le gag visuel. Il y en a un cruel, c'est l'histoire de la flèche qui va dans l'œil, enfin, ce n'est même pas comique, enfin, c'est horrible. Et puis il y a un gag comique, c'est l'histoire du cheval qui enlève le chapeau du roi Arthur. Enfin, c'est le seul. Est-ce que c'est keatonien ou est-ce que c'est chaplinesque? Je laisse le soin au cinéphile de trancher. Enfin, c'est dans Chrétien de Troyes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
Oui, sur cette idée que Perceval, ou tous les personnages pratiquement, sont toujours centrés dans le cadre, moi ça me fait penser que ce que vous filmez, c'est d'une part un espace, mais c'est d'autre part des corps. Et les corps, vous les filmez toujours entièrement, et d'une certaine façon, vous filmez des corps triomphants. Vous filmez pas du tout des corps morcelés, ou bien vous filmez jamais des morceaux de choses, vous filmez toujours les choses intégralement, et c'est pratiquement tout le principe du film, de vouloir toujours tout montrer. Je crois qu'on peut dire que dans votre film, il n'y a pas de hors-champ. Tout ce qui se passe, on le voit tout le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Le problème du hors-champ est un peu délicat. Enfin, l'autre jour, on a entendu Doucher dire qu'il n'y avait pas de hors-champ chez Murnau. Je me demande si c'est... Enfin, il a raison en principe, je pense. C'est ça. Mais cela dit, on pourrait trouver tout de même des hors-champs. Mais...
Bon. Non, c'est sûr.
Bien que ce soit vrai, sur le principe, oui, c'est vrai. C'est vrai, il y en a plus chez Lang que chez Murnau, etc. Oui. Bon, il y en a... Oui, non, mais enfin, je ne sais pas si ça se pose comme ça pour moi, mais ça se pose plutôt, enfin, dans le fait que j'aime les plans assez larges. Je n'aime pas montrer des fragments. Je n'aime pas faire trop de montage. D'une part, parce que le corps est expressif, oui. Et d'autre part, parce que, comme on vient de voir, enfin, comme on a dit, la continuité de l'espace est une chose très importante. Mais il y a paradoxalement, d'ailleurs, il y a plus de gros plans d'Aperceval qu'il n'y en a, je crois, dans mes autres films. Oui. Enfin, autrement dit, je ne sais pas s'il y a plus de gros plans, mais j'ai utilisé un objectif que j'utilise moins, c'est-à-dire l'objectif 50, qui est l'objectif qui rapproche. Pourquoi ? Parce que la matière dans ce film, qui est fait sur un décor complètement artificiel, et comme on dit sur des toiles peintes, mais il n'y a pas de toiles, jamais, c'est pas des toiles, c'est des objets architecturaux toujours, avait besoin d'être traité comme repoussoir. On avait besoin de voir la réalité de la côte de maille. Et pour voir cette réalité de la côte de maille, il fallait s'approcher, il fallait avoir un objectif qui avantageait les gros plans par rapport au lointain. Tout ça est assez subtil, toujours. Enfin, on ne peut pas résumer ça en un ou deux mots.
Mais
il y a toujours des cas d'espèce.
Sur l'idée qu'il s'agit de tout montrer, tout de même, il me semble que c'est un truc qu'on retrouve dans le film à peu près à tous les niveaux, non?
Oui, en fait, c'est un film qui montre les choses très, très droit, je veux dire. Enfin, c'est un film... Oui, c'est un découpage qui ne repose pas sur la surprise. Enfin, c'est un découpage qui ne... Enfin, c'est pas un découpage qui fait confiance au signe. Enfin, c'est un découpage dans lequel il y a peu de figures de style, si vous voulez. Il y a peu de métonymie, comme on dit, ou de métaphore, du moins voulu, c'est ça. Ça filme droit, c'est mon intention, si vous voulez. Cela dit, je me suis servi du montage... Et d'ailleurs, je crois que là, enfin, j'ai pas pensé à, enfin, peut-être Et c'est un hommage que je rends à Fritz Lang, parce que j'ai toujours admiré la façon dont Fritz Lang sait faire du montage très différent de Eisenstein. Enfin, Eisenstein, c'est ce qui compte, c'est ce qui jaillit de la confrontation des deux plans. C'est l'étincelle qui jaillit, c'est-à-dire c'est la signification de cette confrontation. Tandis que dans Fritz Lang, c'est l'inverse, ce serait au contraire du choc des deux plans, c'est chacun des deux plans qui reçoit plus d'expression et de richesse, si vous voulez. C'est une sorte de fluide qui se répand alors dans les deux plans. De sorte que Fritz Lang peut se permettre de ne pas montrer des choses et donner au spectateur l'impression que c'est matériellement montré. Et ça, j'avais toujours envié ça chez lui. Et j'avoue que je m'aperçois que j'ai réussi, de ce point de vue, une petite scène, et même au-delà de ce que je voulais, parce que les gens poussent un cri d'horreur, c'est la scène où le chevalier reçoit la lance dans l'œil. Oui. Mais j'ai fait comme ça parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que c'était très compliqué de faire un trucage, c'est-à-dire de montrer une espèce de flèche qui se rentrait. Bon, tout ça. Alors je me suis dit, tant pis, on va faire ça au montage. Alors au montage, en fin de compte, ce chevalier ne reçoit pas la lance dans l'œil. Elle est déjà dans l'œil. Et quand il tombe d'ailleurs, il ne tombe même pas de son cheval, parce que à ce moment, Nestor m'avait dit, mais pourquoi risquer de le faire tomber même d'une chaise? Il suffit qu'il soit assis par terre et qu'il se penche en arrière et ça sera aussi efficace. Alors là, on a vraiment fait uniquement le nécessaire. Et cela rend énormément. C'est la première fois dans mes films que je fais des effets de ce genre, parce qu'en général, je n'aime pas tellement cette espèce de tricherie, si vous voulez, qu'est le montage. Mais il faut avouer que c'est vrai que le montage est une chose très efficace.
Bon, alors, si vous voulez qu'on parle du roman, vous dites Chrétien de Troyes est le premier romancier français, même, je crois, européen. Je crois que c'est très important pour vous, le roman, Éric Romain.
Oui, le roman est très important.
Ben, on est à la naissance du roman avec ces personnages, non?
On est à la naissance du roman, occidental, enfin, puisqu'il existait des romans dans l'Antiquité. Oui, bon.
Alors, non, mais la composition générale du film...
La composition générale du film, oui, c'est romanesque. En fait, il y a tous les thèmes romanesques. Et même, non seulement il y a les thèmes romanesques, en fait, ça, bon, c'est un lieu commun, c'est évident, voilà, c'est-à-dire le trajet, l'errance, la rencontre, etc., ça va de soi. Mais il y a aussi la structure romanesque. Et alors là, il y a une structure romanesque extrêmement moderne, et qui annonce les gens les plus modernes, enfin, dans la technique romanesque. Bon, en passant, si vous voulez, par Kleist, bon, si vous voulez, mais enfin, c'est peut-être pas tellement lui, mais peut-être par des gens comme Conrad ou comme Kafka. Oui, parce que Chrétien de Troyes ne prend pas son histoire au début, il ne la raconte pas comme une chronique. Comme par exemple le fait Wolfram von Eschenbach qui a écrit Parsifal, qui lui explique précisément au début ce qu'était le père de Perceval, la mère de Perceval, comment ils sont morts, etc. Non, ça commence en plein dans l'action. Et en somme, les romans de Chrétien de Troyes, c'est comme une sorte de course, si vous voulez, que l'on prend au milieu de la course. Enfin, on est en train de rattraper quelqu'un. C'est encore plus net dans Lancelot. Lancelot, c'est comme ça. Quelqu'un part, et Lancelot s'en va, et puis tout le monde court à sa poursuite. Et aussi, dans Yvain, enfin, on entre dans l'action d'une façon extrêmement brutale, et il n'y a pas de ces espèces de repos, de palier, enfin, qu'on peut trouver dans le roman, dans la convention du roman, si vous voulez. Enfin, tout est très serré comme ça. On a l'impression que tout progresse, et tout progresse un peu par la force même de la langue du récit. C'est pourquoi je parlais de Kafka, si vous voulez. Il y a une sorte de... tous les faits sont mis un peu sur le même plan, les uns bout à bout à la suite des autres. Alors, ce côté roman, j'avoue que dans mon film... Il apparaît, mais il est peut-être pas autant qu'il aurait pu si, par exemple, j'avais pu faire un film de 6 heures ou 7 heures. Enfin, parce qu'il y a quand même cette notion de durée qui est très importante dans le roman de Chrétien de Troyes. Alors, dans la mesure où je l'ai théâtralisé, si vous voulez, où j'ai mis de la musique, où j'en ai fait une comédie musicale, de toute façon, ça disparaît un tout petit peu. Ça. Et c'est peut-être, si j'avais un regret, enfin, à l'égard de mon adaptation, si vous voulez, si j'avais fait une petite infidélité à Chrétien de Troyes, ce serait de ce côté-là.
Moi, je dirais plutôt un opéra qu'une comédie musicale.
Oui, enfin, je dis comédie musicale parce que nous sommes au cinéma. Mais ouais. Opéra, non, parce que ce sont des chansons, c'est pas de l'opéra.
Pas tellement, parce que l'opéra,
c'est le bel canto, c'est la musique qui pour elle-même, développée pour elle-même. Là, c'est une musique qui est quand même le support, tout de même. C'est de la parole, et puis c'est une musique qui est populaire.
Mais c'est pas tellement à cause de la musique que je dirais opéra, c'est plutôt, j'y reviens, cette façon que vous avez de filmer les corps. À l'opéra aussi, on montre tout, comme ça.
Oui, enfin, c'est-à-dire, je m'étais demandé un moment, moi, quand on prépare un film, on ne sait pas très bien où on va. Est-ce qu'il faudra faire du ballet? Est-ce qu'il faudra un chorégraphe, etc. Puis je me suis aperçu que, bon, ça n'a pas de sens, que d'abord aucun chorégraphe n'aurait été incapable, puisque la chorégraphie classique, bon, commence beaucoup plus tard. On a cherché une expression, c'est peut-être ça qui vous intéresse, une expression gestuelle, une expression corporelle. Ça a été recherché. Ça a été recherché. Et là, je savais que dans ce domaine-là aussi, je courais des risques. Parce que je courais également le risque de l'artificiel. Et je n'aime pas, je dirais tout de suite, que personnellement, je n'aime pas les films qui sont faits en décor artificiel. Et je n'aime pas les films qui imitent la danse. Et ça, par conséquent, là-dessus, je suis peut-être plus prévenu encore que n'importe quel spectateur. Alors, j'ai toujours voulu laisser les comédiens absolument libres de leurs gestes. Et d'ailleurs, là aussi, je les ai libres. Mais ce sont eux-mêmes qui se sont exercés. Je leur ai dit, voilà, au Moyen-Âge, comment représenter le geste. Bon, effectivement, les gens n'avaient peut-être pas des gestes comme ça, mais c'est tout ce que nous avons comme document. Et la fidélité à une époque, pour moi, c'est la fidélité à ce qui reste de l'époque. C'est pas une recherche vaine de ce que peut être l'époque en tant que telle. Et je crois que même s'il est vrai que ce sont des représentations, il y a tout de même une part de vérité. Alors, on a essayé de trouver la clé précisément de ces gestes et voir si ça pouvait pas être rendu naturel. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, à condition de serrer les coudes au corps, eh bien, à ce moment-là, tous ces gestes pouvaient être fait de façon presque inconsciente et naturelle. Oui, évidemment, nous sommes ici à la radio et pas à la télévision, on ne peut pas le montrer, mais enfin, il suffit de faire un demi-cercle comme ça avec le bras, et à ce moment, vous pouvez avoir cette attitude des mains en haut qui marquerait une sorte de supplication, ou bien d'agrément, d'acceptation, ou bien les mains comme ceci, enfin, qui est un geste plus ample, ou bien les mains portées comme ceci, qui expriment vers le visage, ce qui exprime la douleur. Et les comédiens, et surtout les comédiennes, parce que ce sont des gestes plutôt féminins, d'ailleurs. Et puis, il faut dire que les comédiens, en général, sont des chevaliers, ils ont des armes dans les mains, ils peuvent pas avoir de gestes. Mais on réussit, chacune, d'une façon différente, d'ailleurs, à trouver, elle-même, cette espèce de gestuelle.
Éric Romaine, moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, et du fait de ma propre biographie, je dirais du fait que je me sens, enfin, je suis pas vraiment français de souche, et puis d'autre part, je suis arrivé en France aux environs de ma 22e année. Donc, la France, pour moi, reste quand même une terre un peu étrangère, encore que je sois parfaitement français de nationalité. Et je vous avais dit que il me semblait que c'était le film le plus français qui ait jamais été fait. Je peux m'expliquer.
Oui.
Parce que c'est à la fois le film le plus léger et le plus grave.
Oui,
avec ce sentiment du vif que dans une scène que vous aimez beaucoup du film, qui est la scène de Gauvin et les demoiselles, il me semble que ce film a quelque chose à voir avec le sentiment français essentiel.
Oui, enfin c'est tellement français que la France a couru après, n'a pas pu retrouver cette verve. Enfin, de même ce langage-là, pour moi c'est ça le français. Le français, c'est pas le français du XVIIe siècle. Quand on parle du beau français, on cite en général Racine, enfin Pascal, que je vénère, j'admire beaucoup. Mais c'est tout de même un français plus recherché. C'est un français qui est plein, lui, de figures de style. C'est un français qui est abstrait, si vous voulez, dans lequel le mot concret et on remplace le mot par une périphrase. Bon. Eh bien, il n'y a pas du tout de périphrase dans Perceval. Il n'y a pas de périphrase à tel point que c'est une langue qui exprime assez difficilement des notions abstraites. D'ailleurs, tout est concret, et c'est extrêmement simple, la syntaxe est très simple, tout en étant très riche. En particulier, on pourrait faire une étude, par exemple, sur la façon dont on emploie le subjonctif, et c'est très... Il y a des variétés de cas extrêmes. Et je pense que cette langue, d'une part, pourrait être parlée maintenant, et est très compréhensible aux gens de maintenant, si vous voulez. Le français actuel, familier, par rapport à cette langue-là, paraît horriblement pédant. Et alors là, je crois que ce n'est pas être réactionnaire que d'offrir un modèle puisé aux racines même de sa propre nationalité. Enfin, actuellement, enfin, il y a peut-être 10 ans, ça aurait paru, mais enfin, actuellement, étant donné tous les mouvements particularistes et nationalistes qu'il y a dans le monde, je pense que ce n'est plus considéré de cette façon-là. Et je crois que j'ai toujours trouvé dommage que la France, qu'une couche assez large, en fait, du public français, que les enfants, effectivement, méconnaissent précisément ce trésor du Moyen-Âge, enfin, et que ce soit occulté, si vous voulez, par tout le vernis des autres siècles, si vous voulez. Ça. Le classicisme français, il ne faut pas le trouver seulement au XVIIe siècle, enfin, mais il faut le trouver aussi au Moyen-Âge. Enfin, Molière, c'est très beau, C'est pas pour diminuer Molière, mais il faut aussi aller, il faut aller plus loin, il faut aller à Chrétien de Troyes, et en fin de compte, Chrétien de Troyes, c'est aussi facile à comprendre, une fois, évidemment, la transposition faite, que Racine, et presque même parfois que Molière.
Sur le texte, moi j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser précisément sur le passage du texte de Chrétien de Troyes au passage du texte de votre film. Il y a des choses que vous avez supprimées qui étaient, parce que c'était un peu long et qui nécessairement il y a des choses qui devaient tomber, mais il y a des choses que je regrette un petit peu que vous ayez supprimées. Alors par exemple, la demoiselle hideuse, dans le roman, c'est deux personnages, c'est une cousine d'une part et c'est d'autre part la demoiselle hideuse. Mais en condensant ces deux personnages en un seul, vous supprimez une chose qui me paraissait importante, c'est le non révélé.
Oui, alors il y a des tas de choses, enfin je veux dire, tous les éléments.
Il faut peut-être raconter comment ça se passe dans le roman.
Dans le roman, au début, enfin ça c'est également, c'est très moderne aussi, parce qu'on ne connaît pas son nom, et puis son nom, il lui révélait à lui, lui-même le devine, etc. Bon. Enfin c'est à la fois très moderne et à la fois c'est très conte de fées. Bon. J'ai supprimé, enfin il a fallu que je fasse un choix, et j'ai supprimé. Alors là, effectivement, je me fais mal voir par tous les gens qui sont les celtisans, les spécialistes, évidemment, des légendes galloises, d'accord. Mais enfin, ce qui m'intéressait avant tout, c'était plus le côté XIIe siècle que les origines celtiques de cette histoire. J'ai supprimé tous ces éléments-là. Et là, effectivement, cet élément magique disparaît. Dans mon film, il y a très peu d'éléments magiques. Il y a très peu. En somme, ce film est beaucoup plus psychologique et vraisemblable que véritable conte de fées.
Ouais.
Oui, c'est un choix que j'ai fait. Il fallait faire un choix. J'aurais pu aussi bien faire le choix inverse. Et d'ailleurs, rien n'empêche un cinéaste de faire un Perceval tout à fait différent.
Donc sur le non révélé, c'est sur l'aspect origine celtique que vous ne l'avez pas conservé. Alors,
oui, parce que à ce moment-là, mon Perceval est un personnage tout à fait vraisemblable. C'est un personnage, tout simplement, c'est un garçon qui croit des choses qui sont fausses. Enfin, qui obéit mal à sa mère et aux autres, qui interprète mal les choses, qui interprète bien, à qui il arrive des histoires à cause de sa balourdise, de son innocence, il lui arrive des mésaventures, mais il n'y a rien de merveilleux là-dedans, jusqu'au moment du Graal. Bon, alors je veux qu'il n'y ait qu'une chose merveilleuse, c'est le Graal. Et d'ailleurs, ce Graal, certains me le reprochent, mais enfin, moi, je l'ai présenté comme quelque chose qui est presque rêvé, si vous voulez. On ne sait pas si c'est pas une sorte de songerie de lui. Enfin, le fantastique n'est pas ce qui m'a le plus intéressé personnellement dans cette histoire, voilà, très franchement.
Bien entendu, mais enfin, il y a quand même une dimension mystique, alors là...
C'est différent, précisément, mais mystique, alors à ce moment-là, oui, religieuse, mais mystique, oui, mais pas dans le sens fantastique, c'est que...
Bien sûr.
Tous ces éléments mystiques, si vous voulez, le Chrétien de Troyes n'est pas mystique au sens où le seront... il est beaucoup moins mystique que Wolfram d'Eschenbach, et beaucoup moins mystique que les continuateurs et que les gens qui ont écrit la quête du Graal au siècle suivant, si vous voulez, dans laquelle le Graal était une sorte d'objet, une sorte de relique, si vous voulez, qui était vénéré presque pour elle-même, si vous voulez, enfin, parce qu'il y a le sang du Christ. Enfin, il y avait un côté un peu, si je puis dire, fétichiste. Il y avait un côté également d'initiation, c'est-à-dire que les seuls gens qui pouvaient atteindre le Graal, c'était des chevaliers qui faisaient partie d'une sorte de secte. Bon, c'est pas du tout dans Perceval. Dans Perceval, c'est une religion qui est une religion évangélique. Comme le dit d'ailleurs Chrétien de Troyes dans sa dédicace, c'est la plus grande vertu, c'est la charité. Et précisément, Perceval apprend cette vertu qui est la charité, et c'est-à-dire l'amour du prochain. Alors, c'est ce qui fait changer sa vision de Dieu. Au début, c'est qu'il croit qu'à la force, à la violence, c'est un chasseur. Bon, c'est ça. Bon, par conséquent, il croit que Dieu, qu'est-ce que c'est un guerrier. C'est un homme également qui n'est pas habillé comme les... Enfin, non seulement pas habillé, mais qui n'est pas comme les autres, qui a même une peau qui n'est pas comme celle des autres, puisqu'il croit que la côte de Mike, c'est une peau. Bon. Et peu à peu, il apprend précisément... qu'il faut faire merci à son adversaire. Il apprend aussi qu'il faut obéir à certaines règles, qu'il faut préserver la liberté de l'autre et par conséquent qu'il faut être discret. Mais à ce moment, alors apparaît une contradiction, parce que la discrétion ne doit pas empêcher un mouvement charitable à l'égard de quelqu'un. Oui. Et ensuite, l'ermite, par l'ermite et par la contemplation de l'office du Vendredi Saint, puisque c'est ça que j'ai voulu montrer avec ma passion, il découvre... Le Dieu chrétien, qui est un Dieu, précisément, qui n'est pas un Dieu de violence, qui n'est pas un vainqueur, mais qui est une victime. Alors c'est cette idée chrétienne, tout à fait simple, tout à fait évangélique, qui est l'idée, me semble-t-il, exprimée très nette par Chrétien de Troyes, parce que sa mère fait aussi allusion au Christ qui est mort sur la croix. C'est tout simplement ça que j'ai voulu exprimer, si vous voulez. Et effectivement, tout le côté ésotérique, si vous voulez, de la religion, ça ne m'a pas intéressé dans cette histoire.
Mais enfin, vous-même, vous aviez intitulé un article sur Europe 51 que Génie du christianisme. Oui. Je pense que si vous intéressez à ça, à cette aventure mystique chez Chrétien de Troyes et chez Perceval, c'est que vous y intéressez aussi pour vous-même et pour...
Oui, d'accord, mais enfin, le christianisme, il y a plusieurs façons de le prendre, si vous voulez. Et là, précisément, on aurait pu également faire un film chrétien dans un esprit différent, si vous voulez.
Bien sûr. Il s'agit bien d'un film catholique français.
Ah non, catholique, non, on peut pas dire catholique, parce que le catholicisme n'existait pas à l'époque.
Non, d'accord.
C'est bizarre que ça arrive. Non.
Mais votre représentation de la passion, je la trouve extrêmement intéressante, parce que, d'une certaine façon, vous parlez aussi de la représentation en elle-même depuis 8 siècles quand vous représentez ça. Cette représentation, elle est je ne sais pas si on peut dire extrêmement sulpicienne, si vous admettez qu'on dit ça.
Ça
pourrait être aussi une représentation de patronage. Elle existe à plusieurs niveaux, cette représentation.
Non, disons que c'est effectivement une représentation de patronage, enfin, ou du moins de non-professionnels au Moyen-Âge. Moyen-Âge, mais puisque au Moyen-Âge, c'était d'abord les clercs, c'est-à-dire les religieux qui représentaient dans l'Église, et ensuite les laïcs qui représentaient la passion. Et ça se faisait effectivement de cette façon-là, naïve, c'est-à-dire les gens étaient habillés comme ils étaient habillés à l'époque. J'ai essayé de m'inspirer également de l'art roman, c'est-à-dire que par les costumes, par la simplicité, etc., par la musique, puisque j'apporte ici un élément musical qui est l'organon, c'est-à-dire le début de la polyphonie. Et en même temps, je pense que certaines personnes me suivent dans le public et d'autres pas, j'ai essayé de montrer à la fois cette abstraction, cette simplification, cette stylisation, et à la fois cette violence qu'il y avait dans la représentation de cette époque. Et j'ai voulu, c'est ça, que ce soit violent. J'ai voulu que la flagellation soit violente. J'ai voulu que lorsqu'on enfonce les clous, ce soit également quelque chose de violent. Et je m'aperçois, alors ça dépend des gens, des habitudes du public. Je sais que pour beaucoup de gens, on a reçu quelque chose de très violent. C'est ça. Et c'est parce que le sujet, c'était la souffrance du Christ. C'est le fait que... Enfin, en ce moment, Perceval, est un garçon qui est habitué à servir des armes, c'est ça, bon, et à causer des dommages aux animaux d'abord et puis aux gens. Bon, mais il ne se représente peut-être pas ce qu'il fait, mal précisément qui est fait une créature, c'est ça. Et là, c'est pas seulement la violence qui est exercée contre le Christ, si vous entendez en tant que Dieu, non, c'est une violence qui est faite par un homme à son semblable, c'est ça. Et je pensais que je pouvais exprimer ça tout en restant à l'intérieur précisément de ce côté complètement stylisé et pas du tout réaliste du Moyen-Âge. Enfin, je ne voulais pas non plus faire quelque chose d'une sorte de boucherie, enfin, quelque chose de violent comme on peut voir actuellement au cinéma, puisque...
Oui, mais il me semble aussi que ce que vous dites là, ce que vous dites dans le film, c'est que la figure du Christ et la passion, c'est l'ultime représentation à laquelle on peut arriver. Et que si c'est Perceval qui joue le Christ, c'est parce que toute représentation, finalement, se résout dans cette représentation-là.
Oui. Je vais pas beaucoup laisser la parole.
Non, pas du tout, c'est parce que je l'ai pas prise. Non, ça m'apparaît pas être juste, moi. Mon idée sur le film, c'est plutôt une idée de pureté-impureté. Quand vous dites que le personnage de Perceval est vraisemblable, il m'a paru, moi, carrément évident. C'est-à-dire que c'est un personnage, on se demande même comment on ne l'a pas rencontré au cinéma plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence au cinéma, comme vous dites, de concret, qui fait que ce personnage-là, qui est un personnage concret, évident, simple, il aurait dû depuis bien plus longtemps intéressé des cinéastes. Donc, par rapport à ça, je crois que c'est un niveau de pureté. Il est tellement évident qu'il se représente dans tous les états. À chaque fois qu'il traverse un espace mental ou un espace tout court, il est dedans. Et que quand il traverse ce soi-disant mysticisme, cette expérience de la souffrance, il est dedans. Donc, il est le Christ. Et il y a une espèce d'évidence de la représentation, simplement parce que le personnage ne se voit pas ailleurs que... Et donc, le spectateur ne se voit pas ailleurs qu'au milieu de l'image. Il n'y a pas... Et là, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le hors-change. On n'est pas à l'extérieur du film. On est très, très rarement à l'extérieur du film. Et ça vient... ça m'amène à une autre question, c'est-à-dire que la pureté de Perceval... Elle m'apparaît quand même confrontée à une espèce d'impureté d'autres personnages, qui est même une impureté du jeu, quelquefois. Par exemple, la mère m'a gênée, son jeu m'a gênée. Je l'ai trouvé moins évident que celui de Lucchini, que je trouve absolument irréprochable. Celui du roi aussi, par exemple. Quelques autres personnages qui jalonnent le film. Et je voudrais savoir si c'est un travail que vous avez fait, ou si c'est parce que...
Oui, enfin, là-dessus, comme Fabrice a été attaqué, je le défends, si vous voulez. C'est très difficile, enfin, pour moi, en tant que metteur en scène, de dire je préfère cet acteur ou je préfère celui-ci. Mmh. Enfin, en ce qui concerne Fabrice, il est certain que il a eu cette chose extraordinaire, et je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est que il peut, à lui seul, assurer la bande son du film. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, on a besoin de rien d'autre. En revanche, quand les autres comédiens parlent, pas tous, mais enfin, mais en particulier dans l'épisode de Gauvin. Enfin, André Dusselier est un très bon comédien, mais il est plus, selon la tradition, du théâtre ou du cinéma. Mais à ce moment, on a besoin d'ambiance. Et j'étais très effrayé, d'ailleurs, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme ambiance dans ce film, étant donné que c'est un film qui se passe dans un studio, il n'y a pas de bruit d'extérieur. Bon. Alors, j'ai mis quelques bruits d'extérieur, mais j'aurais pu ne pas en mettre si je n'avais eu que Fabrice. Parce que quand Perceval parle, à ce moment-là, tout est absolument rempli. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il est exactement comme ces personnages romans qui remplissent complètement l'espace, si vous voulez, alors qu'il peut y avoir du vide à côté, sans qu'on ait besoin de paysage derrière. Donc c'est un personnage profondément roman. Tandis que les autres sont des personnages qui sont plus modernes, qui ont besoin du paysage derrière, du décor. Et c'est pourquoi même dans ce film-ci, il m'est arrivé à certains moments de mettre de la musique, un peu de musique d'accompagnement, ce que je ne fais jamais dans les films, parce que les personnages, précisément, n'arrivaient pas à remplir ces trous.
C'est peut-être de là que vient ce sentiment de moins de pureté pour les autres.
Ah, certainement, à ce moment-là. C'est une façon plus Hollywood, si on peut dire, enfin, du jeu, alors que Perceval, c'est l'art roman dans toute sa pureté, que Fabrice Luchini.
La reine Guenièvre, il se trouve que dans le roman, elle a très peu de place, mais elle a un petit peu de place, elle a au moins trois vers, alors que chez vous, elle n'a plus du tout de vers, les seules phrases qu'elle a, c'est elle répète une phrase du roi, elle ne fait rien d'autre que répéter une phrase du roi.
Vous l'avez totalement gommé.
Ah oui, non, mais là, elle ne fait que répéter, chez vous.
Oui, oui, mais bon, enfin, ça vient du fait que, bon, il a fallu organiser cette histoire, enfin, il a fallu, on ne peut pas tout garder, bon, il a fallu construire, et encore...
ça ne paraît pas être la seule raison. Là.
Non, c'est beaucoup plus respectueux, enfin, dans Clark, c'était la marquise d'O, j'ai été respectueux absolument, j'ai tout gardé, bon, parce que je pouvais le faire, c'était une petite nouvelle. Mais là, je fais comme fait tout le monde au cinéma, et souvent au théâtre d'ailleurs, il y a des choses que l'on coupe.
Oui, d'accord, mais là c'est, vous lui faites répéter les paroles du roi, plutôt que d'avoir sa phrase à elle, qu'elle avait dans le roman.
Ça me paraît... Vous souvenez cette phrase?
Ah, très précisément, je peux vous la citer, là. Et la reine lui répond, « Et vous, si soyez bien trouvé, comme chevalier éprouvé, de haute prouesse et de belle. » Lui dit la reine dans le roman.
Oui.
Et alors que chez vous, elle répète la phrase du roi.
C'est ça. Qu'on peut citer. Ça vient du fait. Non, c'est une phrase que je trouve très jolie, mais enfin, il fallait. Bon, il y avait d'autres choses qui m'ont paru plus importantes, c'est tout. C'est tout. Mais sinon, cette phrase aurait pu avoir sa place.
Mais alors, actuellement, vous m'avez dit l'autre jour, enfin, on s'est rencontrés tout à fait par hasard, vous m'avez dit que vous aviez envie de faire peut-être de la mise en scène de théâtre. Est-ce qu'on peut en faire état ou pas?
Non, parce que j'ai pas de choses assez positives à dire. Enfin, oui, c'est une envie. Bon, peut-être c'est une sorte d'aboutissement, mais en fait, je suis un peu entraîné par la marquise d'O et surtout par Perceval à aller du côté théâtre. D'autant plus que j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens de théâtre et que je suis très content de ce travail. Et que au cinéma, je trouve que c'est très frustrant de ne pas pouvoir répéter à l'avance et ensuite de se quitter alors que on vient d'à peine de jouer. Oui, de commencer à jouer, puis c'est fini, tandis qu'au théâtre, ça continue. Bon. Oui, mais je peux encore rien dire de façon précise.
Bon, ce qui nous amène peut-être à Renoir, puisque vous savez mieux que personne que Renoir a tenté d'écrire des pièces de théâtre, de mettre en scène des pièces de théâtre, d'écrire des romans, tout en poursuivant. Puis il est mort, la plume à la main, enfin... bon, alors, il est évident que quand j'ai appris la nouvelle de la mort de Jean Renoir, c'est à vous que j'ai pensé, enfin, parce que il me semble que c'était avec vous qu'il fallait en parler, enfin, du moins au cinéma des cinéastes.
Oui, en fait, c'est très difficile de parler de Renoir, c'est très difficile de parler de lui parce que c'est toujours très paradoxal. Recevoir, c'est ça, et puis c'est pas ça. Par exemple, c'est le théâtre, mais c'est pas le théâtre. C'est le contrat du théâtre. Par exemple, le film le plus beau de Renoir, mais enfin, peut-être qu'il n'est beau que parce qu'on a vu tous les autres. Son dernier film, Le Petit Théâtre de Renoir. C'est très dommage que ce soit un film que personne n'ait vu, enfin, qui a passé à la télévision et puis à peine comme ça à la sauvette dans une salle. Mais quand on a vu paradoxalement ce Petit Théâtre de Jean Renoir, eh bien, tous les autres films font théâtre. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile de dire quelque chose.
Oui, moi j'ai pensé au Carrosse d'Or quand j'ai vu. Perceval.
Ben, je suis très flatté parce que Carrosaur, c'est un des films qui m'ont le plus marqué et pour lequel j'ai une admiration extraordinaire. Et effectivement, c'est un film dans lequel, idéalement, il y a le principe, si vous voulez, c'est, si Renoir n'avait pas fait Carrosaur, il est possible que je n'aurais pas osé me lancer dans Perceval. Parce qu'il y a ce principe qui est le théâtre dans le théâtre. Le théâtre dans le cinéma et puis le théâtre dans le théâtre. Enfin, ça va très très loin, ça.
Mais alors, précisément. Vous dites, parler dans le noir, c'est difficile parce qu'on est tout de suite dans le paradoxe, on est tout de suite donc dans la circulation entre des contraires, c'est-à-dire que la réalité appelle la féerie, le spectacle appelle, etc. Mais est-ce que, d'une certaine façon, c'est pas son apport singulier est-ce qu'il ne vous a pas, vous et votre génération de cinéastes, apporté son fonctionnement mental?
Oui, enfin, Renoir, c'est très important, c'est tellement important qu'en fait, c'est très impressionnant qu'on se demande même si on peut aller au-delà de Renoir. Parce que Renoir m'a toujours, chaque fois que je voyais un film de Renoir dans les années 60, en fait, c'est dans les films, Le Génie sur l'herbe, Cordelier, Le Caporal épinglé, Le Petit Théâtre, on disait, mais il est beaucoup plus moderne que n'importe quel jeune cinéaste. Mais Renoir, c'est la synthèse, c'est l'aboutissement, enfin, c'est à la fois Murnau et Fritz Lang, plus autre chose. Alors, c'est pas... La seule chose qui me rassure, si je puis dire, c'est que Renoir ne soit pas aimé comme il devrait l'être. Non, mais ça me rassure, pourquoi? Parce que sinon, tout serait fini, si vous voulez. Oui. C'est ça. Ça prouve qu'encore, les gens ne sont pas encore là. Et quand j'ai lu, enfin, les choses, les notices de Renoir dans les journaux, je m'aperçois, Renoir, oui, c'est très bien, c'est la grande époque de Renoir, c'est l'époque d'avant-guerre, on accepte la règle du jeu, mais après, non. Bon. Or, je ne dis pas que cette époque d'entre-deux-guerres soit inférieure à l'autre. Mais à mon avis, elle ne prend vraiment tout son sens, si vous voulez, que par la période d'après. Je pense que La Grande Illusion n'apparaît vraiment un très grand film que si on a vu Le Carrosse d'Or. Parce qu'on voit le rapport qu'il y a à ce moment-là. Sinon, La Grande Illusion pourrait passer pour un film assez cinéma français des années 30.
Mais vous, vous pensez à lui quand vous...
Non, je pense à personne. Et d'ailleurs, j'ai très peu de mémoire. Enfin, j'admire beaucoup tous mes confrères qui ont beaucoup de mémoire, qui peuvent citer un plan, qui peuvent dire... Je me souviens même plus, je pourrais même pas vous analyser un plan d'un film.
Ah oui, enfin, vous avez écrit un livre entier sur
oui,
Faust.
Oui, oui, mais à ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à la table de montage et je l'ai regardé comme ça, je regardais le film plan par plan. Mais je me souviens très mal des films. Et je ne pense pas, non, vraiment, je ne pense pas. Je peux dire que l'esprit de Renoir a pu m'encourager, c'est-à-dire que le fait que Renoir et fait Le Carrosse je dis pas Le Petit Théâtre parce que je l'ai vu, j'avais déjà songé à Perceval, et puis me lancer dans cette voie qui est une voie, si vous voulez, qui n'est pas la voie classique du cinéma. C'est-à-dire, certains on dit ce film, Perceval, disent c'est pas du cinéma. Bon, mais précisément, pour moi, c'est une chose qui me flatterait plutôt, parce que je crois que le cinéma actuellement a plus à souffrir de ses propres poncifs, c'est-à-dire de faire des choses qui imitent le cinéma, plutôt que d'essayer d'intégrer au cinéma le théâtre, par exemple, ou le roman, ou tout ce que l'on veut.
C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean-Philippe recevait Éric Rohmer pour son film Perceval le Gallois, avec également Pierre Donadieu et Caroline Champetier, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 février 1979.